Audiolib présente Se souvenir des jours de fête de Christian Signol, lu par Aurélien Ringelheim. À Jacques, né en 2015. Que voulez-vous, nous étions désarmés. Que voulez-vous, la nuit était tombée. Que voulez-vous, nous nous sommes aimés. Paul Éluard. Première partie. Si loin, si loin. Chapitre 1. Mélina était à bout de force dans la chambre qui avait été celle d'Étienne, son époux, en luttant pour mettre au monde leur enfant depuis le début de l'après-midi de ce 14 novembre 1939. Dans un ultime effort qui la fit se cambrer de la nuque au talon, elle parvint enfin à s'en délivrer et comprit seulement qu'elle avait réussi en entendant une petite voix inconnue gémir et pleurer. Mais la douleur avait été si violente qu'elle perdit conscience quelques instants et perçut à peine du fond d'un brouillard épais la joie de la sage-femme qui s'exclamait « Un fils ! Vous avez un fils, ma petite !» Quelques minutes passèrent ainsi, durant lesquelles la sage-femme se mit en devoir de la ranimer. Puis elle coupa le cordon, pansa la plaie et se retourna vers la mère d'Étienne qui nettoyait l'enfant sur la table basse installée près du lit. Toutes deux se hâtèrent de le débarrasser des restes du placenta, de soigner son nombril, de l'habiller enfin pour qu'il n'ait pas froid en ce début d'hiver, et Mélina ne put retenir ses larmes quand la mère d'Étienne posa son fils sur sa poitrine. Elle avait cru être incapable de donner le jour à cet enfant qui vivait en elle depuis 9 mois et qu'il lui semblait pourtant connaître. C'était donc un garçon. Mais comment l'apprivoiser, cette boule chaude, brûlante, qui gémissait doucement sur elle, cet être inconnu et cependant si familier dont les yeux demeuraient clos, encore étranger mais si précieux, déjà, comme si une partie du corps d'Étienne se trouvait là, tellement plus présente que dans ses lettres postées de si loin. « C'est bien, ma fille, » dit la mère d'Étienne. « Tu as été très courageuse. S'il avait pu être ici, il aurait été fier de toi. »
« À qui ressemble-t-il ? »
demanda Mélina.
« Comment savoir encore ? À tous les deux, je crois. »
« En tout cas, » intervint la sage-femme, « il est grand et vigoureux. » Mélina ne bougeait pas. Elle sentait un faible souffle chaud contre son cou, caressait de la main la tête couverte de quelques cheveux bruns, entendait un bruit de succion qui s'échappait des lèvres mi-closes et s'étonnait d'avoir été capable de réaliser un tel prodige. Donner la vie à un être qui, elle l'espérait, ressemblerait à son père, le remplacerait en quelque sorte, lui qui était si loin, et dont elle gardait le souvenir du départ sur le quai de la gare où elle l'avait accompagné, moins d'une semaine après la déclaration de guerre. La même sensation d'absolu désespoir, éprouvée quand elle avait fait demi-tour sur le quai, lui revint à l'esprit, et elle tenta de chasser ce souvenir de sa mémoire, mais elle parcourut de nouveau le trajet de la gare à la rue Réclusanne avec la même émotion, le même anéantissement à la pensée qu'Étienne, peut-être, ne reviendrait jamais.
« Pourquoi pleurer ?» reprocha la sage-femme. « Tout s'est bien passé. »
Mélina ne répondit pas, et elle retint son fils contre elle quand la mère d'Étienne vint le prendre pour le porter dans le petit lit installé près de la cloison.
« Encore un peu, » dit-elle.
« Il faut te reposer. Tu es épuisé. »
« Lui aussi est épuisé, » dit la sage-femme. « Il a souffert autant que vous. »
Mélina lâcha à contre-cœur l'enfant dont la chaleur soudain lui manqua, au point de la faire frissonner.
« Tu as froid ?» s'inquiéta la mère d'Étienne. « Je vais remettre du charbon dans le poêle. »
Ce qu'elle fit aussitôt après avoir couché l'enfant, tandis que la sage-femme s'apprêtait à partir. La mère d'Étienne la paya,